VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerriac en direct de la capitale américaine, lundi 15 juillet 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, en RDC, un premier cas de fièvre hémorragique Ebola a été recensé à Goma et le malade a été ramené à Butembo. Ouverture à Ouagadougou du dialogue national souhaité par le président ROC, Marc-Christian Caboret. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma dément tout lien illégal avec la famille Gupta devant une commission anticorruption. Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris à des élus démocrates, estimant qu'elles devraient retourner d'où elles viennent. Ne ratez pas le journal de la Cannes, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, assassinat de deux responsables communautaires enrôlés dans des campagnes de prévention contre l'épidémie d'Ebola dans la région du Nord Kivu. Par ailleurs, un premier cas d'Ebola a été détecté à Goma, Raissa Girondin.
Ces deux agents de la riposte ont été tués chacun à son domicile entre Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le ministère de la Santé, il s'agit d'un chef de rue et d'une femme de quartier qui faisaient l'objet de menaces depuis décembre 2018. D'après le ministère, la femme a déjà été attaquée une première fois il y a quelques semaines, mais a eu la vie sauve parce qu'elle avait donné de l'argent à ses assaillants. Un médecin camerounais envoyé par l'OMS pour la lutte contre le virus Ebola a été tué dans l'attaque d'un hôpital à Butembo le 20 avril dernier. Par ailleurs, un premier cas a été confirmé à Goma. Le patient, un homme présenté comme un pasteur, arrivé hier dans le chef-lieu du Nord Kivu, a été évacué ce matin vers Butembo, d'où il était venu. L'épidémie Ebola a fait plus de 1650 morts depuis qu'elle a été déclarée le 1er août dernier près de Beni, dans le nord-est de la RDC.
RDC toujours, les partisans de l'ex-président Joseph Kabila, largement majoritaire au Parlement, ont proposé des personnalités de l'ancien régime à la tête du Sénat. Alexis Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice au poste de président du Sénat, et Évariste Boshab, ancien ministre de l'Intérieur, comme premier vice-président. Par ailleurs, l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba a dénoncé la fraude et l'anarchie dans l'exploitation de la forêt équatoriale du nord-ouest du pays. Au Cameroun, le président Paul Biya a décidé un deuxième report à 2020 des élections municipales initialement prévues en 2018. Le mandat des conseillers municipaux élus lors du scrutin du 30 septembre 2013 est prorogé jusqu'au 29 février 2020, a déclaré M. Biya. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères, Thiébilé Dramé, a rejeté tout dialogue avec les djihadistes, y compris dans le centre du pays. Il réagissait à un rapport d'International Crisis Group qui préconise de parler aux djihadistes, notamment les chefs de la Katiba du Massina, du prédicateur radical Peul, Amadou Koufa. Burkina Faso, le dialogue politique entre les partis de la majorité et de l'opposition consacré à la situation nationale et aux élections présidentielles et législatives de 2020 a débuté à Ouagadougou et ses travaux qui s'étalent jusqu'au 22 juillet, une quarantaine de participants. Par ailleurs, le procès du putsch manqué de 2015 a été suspendu pour une semaine après une requête des avocats du général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés. Nous avons déposé depuis vendredi une question prioritaire d'inconstitutionnalité d'une disposition que l'on pense être contraire aux dispositions de la Constitution, a déclaré son avocat. Burkina Faso, toujours 11 personnes gardées à vue à l'unité antidrogue pour des infractions relatives à la législation des stupéfiants sont décédées dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019. Au Niger, Abdourahmane Lirwana, avocat et figure de la société civile, est sorti de prison ce week-end. Condamné en juillet 2018 pour outrage à magistrat, il fait partie du groupe d'activistes nigériens qui protestaient contre la loi des finances 2018 et qui avait été arrêté en mars 2018 lors d'une manifestation pour demander l'abrogation de ce texte qu'il jugeait antisocial. Abdulrazak Idrissa.
C'est avec un moral au beau fixe que l'activiste est sorti de prison après 16 mois de détention.
Je suis sorti sain et sauf. La prison, ce n'est pas une tombe, c'est aussi une autre vie.
Et ça m'a beaucoup renforcé dans mon engagement, parce que ce qui m'a amené en prison, ce n'est pas une raison propre à moi, c'est dans un combat citoyen pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie que je suis venu ici. Et vous avez constaté autant que moi qu'il s'agit d'un règlement de compte, comme l'a affirmé celui qui nous a amené ici. Le ministre de l'Intérieur.
Pour l'accueillir, tous ses camarades de lutte ont fait le déplacement et ont réaffirmé à l'occasion leur détermination à poursuivre la lutte. C'est au mois de mars 2018 qu'avec une trentaine d'autres activistes, Maître Lirwana Abdraman a été arrêté alors qu'il voulait braver une interdiction d'une manifestation contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances de l'année 2018. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est défendu ce lundi devant une commission anticorruption. Il a rejeté toutes les accusations de pillage des ressources de l'État qui lui sont reprochées. Le point avec Adoura Mandia.
On m'a calomnié, on m'a présenté comme le roi des corrompus, a dénoncé Jacob Zuma devant la commission lors d'un monologue de près de 3 heures. Il y a une conspiration contre Zuma, a-t-il poursuivi, évoquant même un complot visant à l'assassiner. Selon l'ancien président sud-africain, la commission anticorruption a été créée pour le faire comparaître, accusant certains de vouloir le faire emprisonner. Jacob Zuma a été poussé à la démission en février 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis de tourner la page de la corruption. L'ancien chef de l'État, âgé de 77 ans, est soupçonné d'avoir favorisé les intérêts privés d'une famille d'hommes d'affaires, les Gupta. L'actuel ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, a accusé devant la commission l'ancien président d'avoir autorisé un climat d'impunité permettant la corruption et la capture de l'État par des intérêts privés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a attaqué avec virulence sur les réseaux sociaux des femmes élues démocrates de la gauche radicale, estimant qu'elles devraient demander pardon aux États-Unis, leur pays. Claire Morin-Gibourg.
Donald Trump a une nouvelle fois choisi Twitter pour s'exprimer. Il a appelé ce week-end certaines parlementaires démocrates à retourner d'où elles venaient. Cela a suscité un tollé dans le camp démocrate qui a dénoncé des propos racistes et xénophobes. Ce matin, le président américain a de nouveau interpellé ses parlementaires, se demandant dans un autre tweet « Quand est-ce que les élus de la gauche radicale demanderont pardon à notre pays, au peuple d'Israël et même au président pour les choses terribles qu'elles ont dites ?» Tant de gens sont en colère contre elle et leurs propos horribles et répugnants, a-t-il ajouté. Monsieur Trump ne cite personne nommément, mais les jeunes femmes démocrates élues au Congrès semblent visées. Ces démocrates, Alexandria Ocasio-Cortez de New York et Rashida Tlaib du Michigan, sont nées sur le sol américain. Par contre, Ilhan Omar du Minnesota est arrivée aux États-Unis en tant que réfugiée de Somalie.
Aux États-Unis toujours, le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il refuserait toutes les demandes d'asile déposées à la frontière sud par des migrants n'ayant pas sollicité le statut de réfugié au Mexique ou dans un autre pays sur la route des États-Unis. Une organisation de défense des droits civiques a annoncé qu'elle allait saisir la justice contre cette mesure qui doit entrer en vigueur mardi. Les tribunaux ont déjà invalidé plusieurs tentatives du gouvernement américain de restreindre le droit d'asile. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. La finale de la 32e édition Égypte 2019 opposera vendredi 19 juillet l'Algérie au Sénégal. Riyad Mahrez a envoyé les Fenecs en finale près de 30 ans après leur premier titre continental. Les Lions de Manchester City a logé son couffre lumineux dans la lucarne juste avant le coup de sifflet final à la 95e pour la victoire 2-1 de l'Algérie devant les Super Eagles du Nigeria. Le capitaine des Algériens élu homme du match le reconnaît. Ce but vaut de l'or. Riyad Mahrez.
On est très heureux de rendre fier le peuple. C'était notre objectif. On le fait pour le peuple. On sait que notre peuple est avec nous et derrière nous à fond.
Donc on veut tout leur donner. Pour la deuxième question, c'est est-ce que c'est mon meilleur but? Je pense que c'est le plus important en sélection.
Le sélectionneur des Fenech, Jamel Belmadi, est l'objet de tous les louanges et remerciements des Algériens. Après cette qualification en finale, la première depuis celle de 1990 remportée à domicile, le technicien algérien préfère jouer balle à terre. Jamel Belmadi.
Au peuple algérien, moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un faiseur de miracles, je ne suis pas un sorcier. Moi au peuple algérien, je vous dis, on va se battre comme on s'est battu jusqu'à présent. Voilà ce qu'on peut promettre. On ne va pas promettre quelque chose qui n'est pas entre mes mains. Nous, on va faire le maximum, dirou sabab, et après, inchallah, toufik min Allah.
Les célébrations de cette qualification pour la finale ont fait 5 morts à Alger, dont au moins 3 adolescents qui ont péri dans un accident de la route. En France, 282 personnes ont été interpellées lors de ces célébrations dans plusieurs villes. En quart de finale, le Nigeria avait arraché son ticket pour les demi-finales. Dans les derniers instants du jeu, cette fois-ci, le sort s'est acharné contre eux. Bien notre sélectionneur du Nigeria.
We scored own goal. Was unlucky.
Nous avons marqué un but contre notre propre camp. C'était malchanceux, mais nous sommes revenus. Comme nous l'avons fait durant le tournoi, quand il y avait quelque chose de difficile contre nous, nous réussissons toujours à réagir et nous l'avons fait aujourd'hui encore en revenant sur un penalty. Nous avons fait une meilleure seconde mi-temps, mais un magnifique coup franc d'un génial footballeur a fait la différence. La fois dernière, nous avons gagné à la dernière minute contre l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous avons perdu. C'est ça le football.
Dans la première demi-finale, Sénégalais et Tunisiens aux prises sont passés par toutes les émotions. Les héros sénégalais et tunisiens, Dylan Brown, a libéré les Lions de la Teranga malgré lui lors de la prolongation en repoussant dans ses filets une balle très mal dégagée par son gardien à la 100e minute de jeu. Les deux équipes ont raté chacune un pénalty en cours de jeu, puis l'arbitre éthiopien a accordé un pénalty aux Tunisiens sur une main d'Idrissa Ganagay dans la surface avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR, des moments intenses de foot que même un entraîneur ne maîtrise pas. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal.
Vous maîtrisez rien du tout à un moment donné. Il ne s'agit plus de tactique, il ne s'agit plus de technique. Ce sont des hommes à un moment donné qui sont sur le terrain. En réalité, vous êtes en dehors du terrain, vous criez partout, mais le message passe peu. Ce match d'aujourd'hui a été un match quand même incroyable, quoi. Je crois que ça restera dans les annales du football africain.
Le Sénégal va jouer sa deuxième finale de CAN 17 ans après. La première remonte à 2002. Le coach actuel des Lions de la Teranga était alors capitaine de l'équipe en face. Les Tunisiens ont fait un gros match, mais le résultat n'a pas suivi. Alain Giresse, sélectionneur des Aigles de Carthage.
Quand on est éliminé, évidemment, c'est la première déception qui prévaut dans ce genre de rencontre. L'important, c'est de se qualifier, d'aller jusqu'au bout. Ce qui n'a pas été le cas. Après, bien sûr, on peut, sur la prestation de l'équipe, se dire qu'on était au niveau de l'équipe du Sénégal et au niveau de cette demi-finale. C'est bien peu, mais c'est déjà une chose.
Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ses deux demi-finales épiques.
Dans le double duel qui a opposé l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, à travers les affiches Sénégal, Tunisie et Algérie-Nigéria, le Sénégal a gagné la première manche en arrachant dans la douleur un des tickets de la finale au terme d'une partie crispante et tendue. Les Tunisiens, fidèles à leur réputation d'Italiens d'Afrique, ont embarqué les Sénégalais dans un faux rythme, jouant au jeu du chat et de la souris tout au long de la rencontre qui s'est dénouée sur des maladresses, avec deux pénaltys manqués pour les deux équipes et une sortie ratée du portier tunisien, provoquant un autogol d'un défenseur malheureux pendant les prolongations. Ainsi, 17 ans après Mali 2002, revoilà le Sénégal en finale de la plus grande compétition africaine des nations pour une nouvelle chance dans la quête du titre suprême. Il y retrouvera l'Algérie qui, à l'issue d'un match très relevé, a éliminé le Nigeria sur un magnifique coup franc de Riyad Mahrez à l'ultime seconde du temps additionnel. La puissance et la ténacité des Nigérians n'ont pas suffi pour venir à bout de Fenech, dont la qualité individuelle de l'effectif, bien exploitée par un collectif créatif sous la direction de Riyad Mahrez, un leader talentueux et décisif qui sait prendre ses responsabilités, a fini par faire la différence. La finale de vendredi, comme celle de 2008 au Ghana, va donc prendre ultime motivation, l'allure d'une revanche pour les qualifiés du groupe C. C'est une finale de rêve entre deux équipes affamées. Le Sénégal se plaint sans couronne, impatient d'être sacré, et l'Algérie qui a hâte d'étouffer un palmarès trop maigre et non conforme à la réputation de son football. Qui finira par terrasser l'autre? Réponse vendredi soir. À bientôt.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, le premier cas d'Ebola a été confirmé à Goma. Il s'agit d'un pasteur de 46 ans, arrivé dimanche matin en provenance de Butembo, l'un des foyers de la maladie. Après une nuit passée à l'isolement, dans un centre de traitement, le malade a été renvoyé ce matin à Butembo. Ce renvoi n'a pas apaisé la crainte dans la population, mais les autorités tentent de rassurer. De Goma, notre correspondant Charlie Kasereka.
L'alerte a été donnée ce dimanche par les autorités sanitaires. À travers les réseaux sociaux, la nouvelle circulait déjà. Dans la soirée, un bon nombre de personnes étaient déjà au courant. Ce matin, tout le monde en parlait dans les transports et plusieurs carrefours de la ville.
La nouvelle, je l'ai reçue de là où je travaille. On nous dit de ne plus se toucher. Nous demandons juste aux autorités de mener des enquêtes pour découvrir le origine de cette épidémie et en finir une fois pour toutes.
Moi, personnellement, je me dis comme c'est un cas, il y a même 20 cas qui sont encore inconnus et nous devons nous préparer à tout, à pouvoir solliciter aux autorités de pouvoir multiplier les efforts pour la prévention. Nous devons changer les habitudes et nous ne devons plus nous toucher les mains pour nous mettre à l'abri parce que cette maladie-là ne choisit personne.
Les autorités sanitaires ont fait savoir dès le soir que le cas testé positif a été mis en isolement dans un centre de santé à Fia dans le quartier Himbi. Ce matin, après une réunion entre les gouverneurs et la délégation du ministère de la Santé, une mesure sécuritaire a été prise, celle de transférer les malades à Butembo d'où il était venu. Le cas confirmé est un pasteur de l'église protestante originaire de Bukavu, dans la province voisine du Sud Kivu. Apparemment, il était en mission d'évangélisation à Butembo, puis à Goma. L'Organisation mondiale de la santé s'est vue rassurante et a appelé les habitants de la ville de Goma à une vigilance accrue et surtout d'observer les mesures d'hygiène. Docteur Michel Yao, coordinateur de la riposte Ebola pour OMS dans le Nord Kivu et en Ituri.
Les personnes qui ont été en contact avec ce cas positif sont en train d'être identifiées. Ceux qui sont connus depuis ce matin sont en train d'être vaccinés. Mais comme le gouverneur l'a dit, il ne doit pas avoir de panique. Nous avons eu un cas en Ouganda qui a été contrôlé et nous avons espoir que celui-ci peut être contrôlé si nous sommes tous mobilisés.
Après cette alerte, le gouvernement vient de renforcer les mesures de prévention à tous les points d'entrée et de sortie de la ville. Déclaré depuis 10 mois à Béni, 350 km au nord de Goma, le virus Ebola a fait plus de 1660 morts et 2395 cas recensés. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Cameroun, libération vendredi soir d'une soixantaine de militants de l'opposition. Le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a ordonné un non-lieu pour ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Ils avaient été interpellés en début d'année au même titre que leur leader, Maurice Kamto, qui n'est pas concerné par cette remise en liberté. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Après une première nuit de liberté, Lid Baski, un jeune militant du MRC, raconte les circonstances de son arrestation en janvier dernier à Douala.
Le 28 janvier, nous nous rendons chez notre président national, qui est le professeur Maurice Kamto, qui était chez M. Nzongam. Autour de 20h, les choses se compliquent. Le domicile est encerclé, pris en assaut par les éléments de force de l'autre. Tout ce que nous avons entendu, c'était que embarquez-les si vous avez de la logistique.
Victor Nitieu a quant à lui été interpellé à Bafan, dans l'ouest du Cameroun, au cours d'une marche organisée par le MRC.
Nous avons été déportés de la prison centrale de Bafan vers Bafoussam et 30 minutes après pour Yaoundé dans la nuit.
Pendant 6 mois, Victor et 38 autres personnes du MRC libérées vendredi ont été soupçonnées d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, de rébellion, d'outrage au président de la République de manifestations publiques, entre autres. Victor Nietzsche.
Je savais que c'était une détention politique. Ils nous gardaient pour qu'on soit silencieux depuis le jour où le professeur Kamto a déclaré avoir gagné l'élection. Donc ma liberté ne m'a pas surpris.
Le juge d'instruction du tribunal militaire n'a pas rendu la liberté à tous. Maurice Kamto, trois de ses alliés politiques, une centaine de militants et cadres du MRC vont rester en prison et comparaître devant le tribunal militaire.
La décision de poursuivre certains dans ce dossier et d'abandonner les charges contre les autres est l'illustration d'une politique de deux poids, deux mesures.
Olivier Biboun-Nissak, porte-parole de Maurice Kamto.
Par cet acte, le régime illégitime de Yaoundé vient de confirmer le caractère totalement politisé de cette procédure. Parce que dans le même cas, dans la même affaire, pour les mêmes faits, vous voyez qu'il a procédé à la libération une soixantaine. Ce n'est pas la logique juridique et judiciaire qui commande ce dossier, mais une autre logique plus arbitraire, et elle, cette logique est politique.
Aucune déclaration jusqu'ici du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, suite à l'abandon des charges contre les militants du MRC. Pour leur part, certains Camerounais rencontrés à Yaoundé sont passionnés par le sujet.
Peut-être comme on l'a découvert, Takoune est revenu à raison. On est dans un état, en fait, les marches à tout moment. C'est pas bien, moi, vous êtes condamné ça.
Ceux qui marchaient au Cameroun, ils n'avaient pas de boudin, ils n'avaient pas les armes, ni le couteau. On ne peut pas les inculper de ce qui s'est passé en France ou alors en Allemagne.
La justice militaire a retenu contre Maurice Kamto les charges de complicité de dégradation et destruction des biens publics ou privés en référence au saccage des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Aux États-Unis, les services de l'immigration ont commencé ce week-end une vaste opération de rafle visant 2000 personnes déjà sous le coup d'un ordre d'expulsion de la justice. Ces raids, annoncés depuis des semaines par le président Trump, ont lieu dans 9 grandes villes du pays, provoquant la colère des démocrates, mais applaudis par les partisans de Donald Trump. Un reportage de Mike O'Sullivan avec le récit d'Abdourahman Dia.
Le maire de San Francisco, London Breed, avait dès vendredi promis que sa ville allait rester une ville sanctuaire pour les migrants, défiant l'administration Trump. Dimanche, des manifestants se sont réunis à New York. Karina Kaufman Gutierrez est militante pro-immigration à New York.
Ces descentes et ces menaces ont un impact sur nos communautés en répandant la peur. Leur seul objectif est de répandre la peur pour que les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux.
Près de San Diego, il y a eu des manifestations à la frontière, alors qu'à Washington, des membres du Congrès ont dénoncé les conditions de détention des migrants. Alexandria Ocasio-Cortez est démocrate à la Chambre des représentants.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une politique qui permette la détention de femmes et de familles qui ne font du mal à personne et qui demandent légalement l'asile.
Les autorités américaines se disent débordées par le nombre de personnes, plus de 100 000 par mois, essayant de traverser illégalement la frontière. Une véritable crise pour les républicains. Andy Biggs est un républicain du Congrès.
Il y a des mois, alors que mes collègues se plaignaient que la crise à la frontière est fabriquée, nous leur demandions d'agir immédiatement car les conditions étaient horribles. Les centres étaient surpeuplés.
Les partisans du président Donald Trump demandent au Congrès de corriger les lacunes dans la loi, mais ses adversaires pensent que le système doit être entièrement revu.
Lift off. We have lift off.
Alors que le monde célèbre le 50e anniversaire de la mission historique qui a vu un homme marcher pour la première fois sur la Lune, Ken Farabaugh de VOA revient sur cet acte monumental à travers les yeux des astronautes de la NASA eux-mêmes. Dans des interviews exclusives rassemblées par Farabaugh, les hommes du programme Apollo s'expriment sur le voyage vers la Lune et au-delà. Le récit d'Arzuma Compaoré.
Le 4 octobre 1957, Harrison Smith est astronaute à la NASA. Il fait partie de la mission Apollo 17.
En 1957,
j'étais un étudiant Fulbright en Norvège et j'étais sur le terrain pour recueillir des informations géologiques. La seule radio américaine que j'ai pu entendre était la voix de l'Amérique qui émettait d'Alger. L'émission de Willis Conover, Jazz de A à Z, a été interrompue et ils ont annoncé que l'Union soviétique de l'époque avait lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais commencer à prêter attention à l'espace. Le 12 septembre 1962, le président John Kennedy.
Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles.
Jim Lovell est astronaute à la NASA. Il a fait partie des missions Apollo 8 et Apollo 13.
Lorsque le président Kennedy a annoncé que nous allions nous rendre sur la Lune avant la fin de la décennie, je ne pouvais vraiment pas y croire. Je me suis dit, c'est juste pour nous donner confiance, mais je ne pense pas que ce soit possible.
Aucune nation qui aspire à être le leader des autres nations ne peut se permettre de rester en arrière dans cette course.
Eugene Cernan est astronaute à la NASA. Il a fait partie des missions Apollo 10 et Apollo 17. Être exceptionnel, être numéro un, être un leader, accomplir moins que cela est inacceptable pour le peuple de ce pays.
This is the voice of America's Apollo 11 News Center.
It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky.
The next critical point in the lunar landing flight comes in about 2 hours from now.
Le 20 juillet 1969.
Ici base de la tranquillité, l'aigle a atterri. Je vais quitter le module maintenant. C'était un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité.
Le programme spatial a été un élément positif qui a inspiré les gens et leur a donné de l'espoir quant à ce que faisait ce pays.
Le 14 décembre 1972.
Quitter la planète Terre et aller de l'avant dans l'univers, je pense qu'il n'y a pas de contribution plus significative à l'histoire que celle apportée par Apollo.
Nous retournerons sur la Lune. Michael Collins est un astronaute de la NASA. Il a fait partie de la mission Apollo 11.
Mon ami Neil Armstrong a pensé que retourner sur la Lune était approprié et nécessaire avant une expédition sur Mars.
Dire que je pensais que cela prendrait 50 ou 60 ans avant que les Américains ne retournent sur la Lune, je ne l'aurais pas du tout deviné. Fred Heiser, astronaute à la NASA, a fait partie de la mission Apollo 13.
Cela me surprend que nous ne soyons pas encore allés sur Mars.
Je suis martien. Je pense que Mars est la prochaine grande destination.
Buzz Aldrin est un astronaute à la NASA. Il a fait partie de la mission Apollo 11.
J'attends avec impatience le 50e anniversaire, car c'est peut-être et ce devrait être une période de réaffirmation très cruciale de la voie que nous avons tracée.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.